La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, vieillir, comment cela se fait-il ? La mort est d'abord la disparition dans les êtres de ces mouvements expressifs qui les faisaient apparaître comme vivants. Elle est cette immobilisation qui réduit les corps à des entités muettes et décomposables. Soudain, le visage devient masque. Cette inertie charnelle qu'apporte le mourir semble indiquer que les organismes vivants sont composés d'entités stables qui, au jour de leur mort, cassent leurs liens et se dispersent dans l'espace. C'était d'ailleurs la conception des premiers atomistes. On sait aujourd'hui que la vérité est plus complexe. Les molécules organiques qui forment nos tissus quittent notre organisme dans une ronde incessante et sont aussitôt remplacées par d'autres. L'unité spatio-temporelle d'un être humain s'apparente à celle d'un régiment qui a gardé le même drapeau depuis des siècles, mais dont les noms des soldats qui le composent ne cessent de changer. Nos globules rouges ont une espérance de vie de 120 jours. Les cellules de nos alvéoles pulmonaires sont remplacées toutes les semaines. Vastes ensembles de cellules nous-mêmes, nous avons donc quelques ressemblances avec le bateau de Thésée, ce navire qui était perpétuellement réparé et dont les sophistes d'Athènes se demandaient, au fur et à mesure que ses pièces étaient remplacées, s'il s'agissait encore du même bateau. Mais si cette analogie du bateau de Thésée était vraiment pertinente, comment pourrions-nous expliquer notre vieillissement ? Existe-t-il un lien entre les mécanismes moléculaires qui contrôlent la vie et la mort des cellules et ceux qui contrôlent l'usure de nos corps ? Pour en parler, j'ai invité Jean-Claude Veil. Bonjour Jean-Claude Veil.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'immunologie et vous dirigez avec Claude Agnès Reynaud un groupe de recherche sur le développement du système immunitaire à l'hôpital Necker. C'est bien ça ?
C'est tout à fait ça.
Alors, je ne l'ai pas dit en vous présentant, Jean-Claude Veil, mais vous êtes également académicien, donc immortel. Or, j'ai cru comprendre en vous lisant que vous ne semblez pas croire ceux qui nous promettent l'immortalité pour bientôt. Alors, comment est-ce que vous vivez cette contradiction entre votre statut d'immortel et vos pensées de mortel qui se sait mortel ?
Oui, mais sur l'immortalité, j'ai pas dit mon dernier mot. Je vous en reparlerai dans une cinquantaine d'années. Pour le moment, je pense que je ne suis pas immortel. Mais on ne sait jamais. L'avenir est imprévisible.
Alors, en effet, il est imprévisible. Et pour commencer cette conversation scientifique, vous pardonnerez la naïveté de mes questions. En fait, je ne comprends rien à ce que vous faites.
Moi non plus.
Et vous êtes immunologiste. Qu'est-ce que c'est que l'immunologie ? J'ai lu quelque part que c'est évidemment une branche de la biologie qui s'occupe de l'étude du système immunitaire. Et j'ai cru comprendre que ce système immunitaire, il est apparu très tôt au cours de l'évolution. Et il a évolué pour discriminer le soi du non-soi. Autrement dit, est-ce que notre corps est capable de reconnaître les cellules qui lui appartiennent ?
Oui, d'une certaine façon, le système immunitaire, c'est une armée de cellules, des milliards de cellules, qui sont faites tous les jours d'ailleurs, car la moelle osseuse, par exemple, on parle toujours du nombre d'habitants dans la planète, 6-7 milliards, mais la moelle osseuse chez l'homme produit 5 milliards de cellules lymphoïdes par jour. Donc c'est un chiffre qui finalement n'est pas tellement impressionnant. C'est une armée de cellules qui est censée observer tout ce qui se passe dans le corps, et dès que le corps est attaqué par une substance étrangère au corps, cette armée de cellules est censée gérer cette attaque, c'est-à-dire elle va produire soit des molécules qu'on appelle les anticorps, soit au niveau de cellules qui vont pouvoir attaquer ces agresseurs qui peuvent être des virus, des bactéries, des pathogènes, des champignons. Évidemment, à partir du moment où le système immunitaire peut reconnaître tout ce qu'il y a à l'extérieur, il peut aussi reconnaître des substances chimiques, il peut aussi reconnaître la poussière de lune, un immunologiste appelait ça moon dust. Le système immunitaire peut tout reconnaître parce qu'il a une diversité infinie, il fait une diversité infinie. Il fallait évidemment gérer le fait qu'il pouvait aussi reconnaître tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comment on pouvait reconnaître l'extérieur sans toucher à l'intérieur ? Toute la subtilité du système immunitaire, c'est de pouvoir réguler ça de telle façon que cette armée est prête à recevoir les agresseurs, mais qu'elle ne va pas toucher au corps. Quand elle touche au corps, il y a une dérégulation du système qu'on appelle l'auto-immunité, c'est-à-dire qu'on devient humain contre soi-même.
Système immunitaire, il ne se trompe jamais. Il ne s'en mêle pas les pinceaux en confondant des entités qui appartiennent au corps avec d'autres qui n'appartiennent pas au corps.
Quand il se trompe, on peut partir vers la pathologie auto-immune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, des cas de pathologie auto-immune, c'est ce qu'on appelle du mimétisme parmi les différentes explications. C'est-à-dire qu'une bactérie arrive, elle a des motifs à sa surface, et un de ces motifs est équivalent à un motif interne. Donc le système immunitaire, voyant ce motif externe, va l'attaquer, mais en même temps, ces cellules qui vont attaquer ce motif externe vont pouvoir attaquer la partie du corps qui exprime ce motif. Et là, on est dans un type d'auto-immunité. Normalement, là où le concept de soi non soi a évolué, c'est qu'on partait du principe que dès que les cellules étaient faites, dès que ces 5 milliards de cellules sortent tous les jours avec leur motif de reconnaissance, toutes celles qui reconnaissent le soi sont éliminées. Donc il ne reste plus que les cellules qui ne reconnaissent pas le soi et qui se baladent dans le corps et qui attendent justement une agression. On sait maintenant qu'il y a quand même un certain nombre de cellules qui sortent de cette usine à 5 milliards de cellules, et qui reconnaissent le soi d'une certaine façon. Alors, soit elles sortent de la moelle osseuse, soit elles sortent du thymus, là on rentre dans la division cellule B, cellule T, et qu'elles peuvent reconnaître le soi, mais elles sont contrôlées par des cellules qu'on a maintenant bien identifiées, dont on parlait depuis longtemps, qui s'appellent les cellules régulatrices. Donc il y a tout le temps un peu d'auto-immunité, mais elle est contrôlée. Quand vous enlevez, et il y a des maladies chez l'homme où ces cellules régulatrices n'existent plus, les gens font des polymaladies auto-immunes, c'est-à-dire qu'ils font des maladies auto-immunes de toutes sortes. Donc, c'est pas, il y a l'élimination de tout ce qui reconnaît le soi, et en plus, il y a toute une série de cellules qui reconnaissent le soi, pas trop fortement, mais qui sont contrôlées et qui sont là. Alors, pourquoi on a ces cellules qui reconnaissent le soi à faible affinité, si on prend les mots des immunologistes, c'est compliqué de comprendre pourquoi le thymus laisse sortir toute une population de cellules T qui, en fait, sont prêts à attaquer le soi si les régulateurs ne sont pas là. Pourquoi les cellules B sortent de la moelle osseuse avec un certain nombre de spécificités contre le soi? Là, on commence à penser qu'elles vont faire des anticorps contre le soi et elles vont servir de système de voirie. C'est-à-dire que toutes les cellules mortes, toutes les cellules qu'il faut débarrasser constamment, c'est ces anticorps anti-soi à faible affinité. Mais vous voyez, je rentre déjà dans la sémantique de l'immunologie.
Vous allez dans la technique. Alors, seconde question plutôt. J'ai lu quelque part que depuis que les scientifiques s'intéressent au vieillissement, ils ont produit 300 théories différentes du vieillissement. Ce nombre a surtout certainement augmenté parce que mes lectures sont anciennes. Qu'est-ce que l'évolution pense du fait que nous vieillissons? Est-ce que elle s'intéresse à nos vieux jours ou est-ce qu'une fois qu'on a répandu ces gènes autour de nous, elle considère qu'on a fait notre œuvre?
Oui, l'évolution, c'est vraiment accepté maintenant que l'évolution pense qu'une fois qu'on s'est reproduit, une fois qu'on a réglé son compte avec l'espèce, comme disait François Jacob dans son livre, La logique du vivant, une fois qu'on a réglé son compte avec l'espèce, on doit normalement dégager, comme on dit. On doit quitter la place et laisser la place aux autres. Tout le système de la sélection sur le mode darwinien, c'est que tout est fait pour avoir une reproduction efficace. Toute l'énergie est dépensée pour la reproduction et après la reproduction, finalement, il n'y a pas lieu de continuer à exister. Alors les humains, pour des raisons que j'ignore, ont décidé de vivre plus longtemps.
Ils n'ont pas décidé, l'évolution le tolère.
L'évolution le tolère pas vraiment, parce que vous apercevez que toutes les maladies, vraiment les maladies dégénératives, comme l'Alzheimer, le Parkinson, les maladies neurodégénératives, le cancer, le pic du cancer, c'est à 60-65 ans. Donc on a l'impression que vraiment notre génome n'est pas équipé pour faire face à ça, parce que la sélection ne s'est pas occupée de savoir ce qui allait se passer après la reproduction. Ce n'est pas son sujet. Donc ça commence vraiment à se casser la figure après la reproduction.
Et est-ce qu'on comprend ce qui s'abîme au niveau des cellules?
Alors ça,
cette sénescence des cellules dont vous parlez, et en quoi est-elle liée au vieillissement de nos propres corps?
Les théories du vieillissement, comme vous dites, il y en a des centaines. Il y a des gens qui disent il y a d'abord des gens qui ont dit que le vieillissement était programmé et que la mort était programmée. C'est-à-dire que dans nos gènes, à un moment donné, il y avait une horloge qui disait basta così, on arrête, il faut dégager, on passe au suivant. Il y a des gens qui pensent donc qu'il y aurait un programme génétique pour la mort. Et il y a d'autres gens qui ont expliqué le vieillissement et la mort, soit, alors là, il y a plein de théories, je veux pas vous ennuyer trop, mais il y a la théorie de la catastrophe, qui était une des premières théories, c'est qu'une fois que l'ADN commence à être un peu perturbé, la lecture des gènes se fait moins bien, donc on fait une protéine qui est moins bonne, donc Tout part à volo à partir de ça. Il y a des gens qui ont dit que c'était les radicaux libres qui faisaient le vieillissement. Il y a des gens qui disent que c'est les protéines qui sont abîmées, dont on se débarrasse pas bien, carbonylées, oxydées. Je pense qu'il y a des gens qui disent que c'est le système neuro-endocrinien dans l'hypophyse et l'hypothalamus qui marche moins bien. Je pense que tout ça est vrai. C'est cet ensemble de choses qui fait qu'à un moment donné, ça part en vrille.
Il y a quelques années, André Klarsfeld et Frédéric Reva avaient écrit un livre qui s'intitulait « La biologie de la mort ». Mmh. Et ils montraient que la mort restait incomprise. C'est-à-dire qu'expliquer le vieillissement, c'est sans doute possible, mais on ne peut pas expliquer mécaniquement par quoi le vieillissement engendre la mort ou provoque la mort.
Je pense toujours à cette phrase d'un grand penseur du XXe siècle, je ne veux pas être trop pédant, qui disait tant que les hommes seront mortels, ils ne pourront pas être complètement relax. Donc c'est vrai qu'on restera toujours sur ce... Vous savez de qui je parle, je suis sûr. Et c'est vrai qu'on restera toujours sur cette problématique, mais quand même, quand on pense que des cellules cardiaques, que les systèmes immunitaires, que les cellules musculaires, que tout ça va perdre sa fonction, que les cellules respiratoires vont perdre, on peut imaginer que peu à peu...
Ça va mal aller.
Ouais,
et quand nous mourrons, qu'est-ce qu'il advient de nos cellules? Est-ce que notre mort les tue?
Alors, je pense...
Question naïve.
Oui, non, je pense que quand nous mourons, peu à peu, tout le système se dégrade, et puis on est bouffé par les bactéries, et on retourne au grand cycle du vivant, mais plus sous la même forme.
On se recycle.
Oui, exactement. On participe au cycle du vivant, mais différemment.
Pourquoi avez-vous travaillé au niveau cellulaire? J'ai lu dans vos papiers une histoire de gène P53.
Alors,
qui a l'air de vous avoir passionné.
Oui, ça c'est une histoire un peu particulière, parce que notre labo, notre équipe avec Claude Alessandro, on travaille sur le développement du système immunitaire, sur un plan moléculaire, on travaille sur la mémoire immunitaire, et d'ailleurs ça... C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, parce que d'un côté, il y a cette histoire que l'évolution n'a pas prévu qu'on continue après la reproduction, et que de fait, il y a plein de pépins qui arrivent après la reproduction.
Il faut quand même éduquer les enfants.
Oui, il faut éduquer. Bon, il faut les grands-parents qui soi-disant s'occupent des enfants pendant que les parents vont au boulot. Mais je ne sais pas si on a encore assez d'années pour avoir sélectionné pour la survie des grands-parents. Mais on a l'impression que d'un côté, l'évolution n'a pas fait plus que nous amener à nous reproduire au maximum, rencontrer un partenaire, tout le courtship que font les oiseaux, on fait pareil. Nous, on va dans les restaurants, on danse, on s'habille, on lit des livres pour pouvoir pas être trop rasant quand on est avec le partenaire. Enfin, tout le courtship des oiseaux, avec les couleurs, les chants et tout, on fait à peu près pareil, d'une autre façon, pour pouvoir rencontrer le partenaire.
Donc c'est pour ça qu'on est fait, en fait.
Oui, pour se reproduire, c'est ça. Après, donc, d'un côté... Il y avait l'étude du système immunitaire. Ce qui m'amusait beaucoup, c'est qu'on avait l'impression, sur les choses sur lesquelles on travaillait, d'un clin d'œil de l'évolution. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que l'évolution, quand même, après avoir dit, écoutez, il faut dégager, de temps en temps, elle envoyait un petit clin d'œil en disant, j'ai quand même prévu que, fou comme vous êtes, vous allez vouloir vivre 100 ou 200 ans. Et nous, on travaille sur les cellules à mémoire immunitaire chez l'homme. Et c'est vraiment un cas typique de clin d'œil de l'évolution. Parce que vous vaccinez un bonhomme, bon, c'est les vaccins les plus performants, variole, fièvre jaune. On travaille sur la variole parce que le virus a été éradiqué. Vous vaccinez un type à 10 ans, à 80 ans, il a des cellules dans la rate, c'est en général là qu'il les stocke, elles circulent mais il a dans la rate. Il a des cellules dans la rate qui se souviennent de ce vaccin il y a 10 ans, qui dorment dans un coin, qui ne sont pas sénescentes, pas cancéreuses, et qui, si la variole arrive, vont réagir tout de suite et faire des anticorps. Et en fait, ces cellules sont les cellules normales immortelles. Et, par exemple, ça c'est les cellules mémoire. Il y a d'autres types de cellules qu'on appelle les plasmocytes qui crachent continuellement des anticorps. On sait que, par exemple, pour la variole, la vie de ces plasmocytes, une fois que vous êtes vacciné, est d'environ 300 ans. On a mesuré la demi-vie. Donc on a l'impression que l'évolution, par certains clins d'œil, nous a donné quand même les moyens d'avoir des trucs qui durent très longtemps.
Nous, déjà nos atomes.
Oui, ça
nos
c'est
nos atomes.
Exactement.
S'ils sont pas radioactifs, ils sont là pour toujours.
Exactement.
Et notre mort ne les dégrade en rien.
Donc, ces cellules, on a mis 5 ou 6 ans avant de trouver un moyen de les isoler, à partir de rats, de gens décédés, et on essaye de voir quel est le programme génétique de ces cellules, parce que d'abord, c'est passionnant sur le plan général, qu'est-ce que c'est que ces cellules immortelles normales dans un coin? Quel est le programme génétique? Et ensuite, comme il y a très peu de vaccins qui donnent ce type de longévité, est-ce que si on trouve une signature, est-ce qu'on pourra, avec un adjuvant, l'obtenir avec d'autres vaccins, comme le tétanos et tout, qui sont moins performants? L'histoire de la P53, c'est une autre histoire, c'est un peu...
Alors dites-moi déjà comment on choisit le nom des gènes. P53, ça veut dire quoi? Le 53?
Oui, ça a été... Alors là, je crois que ça fait 53 kilos dalton, c'est la taille de la protéine. C'est pour ça qu'on l'a appelé P53.
Et ça, c'est une signature, la taille, pour une protéine. Donc le P53,
alors,
quelle
voilà.
est cette,
alors, la manip,
cette chose?
La manip du P53, c'est une manip que j'ai pas faite, donc c'est pour ça que c'est un peu une danseuse, parce que c'est une manip théorique. L'idée, j'essayais de comprendre, est-ce que c'est vrai cette histoire que l'évolution ne s'est pas préoccupée de ce qui nous arrive après la reproduction? Comment on peut le montrer? Parce que c'est dans le savoir commun, mais en fait, on ne l'a vraiment jamais montré. On sait que toutes ces maladies arrivent dans le monde. On parle toujours des pays évolués, arrivent après la reproduction. Et, sans être trop rasant, dans le cancer, on a des gènes qu'on appelle les gènes, les gardiens du génome. C'est-à-dire que c'est des gènes. On n'en a pas beaucoup, mais c'est qu'on appelle ça les suppresseurs de tumeurs.
Parce qu'au total, on a 20 000 gènes, c'est ça?
Oui, 20, 25 000 gènes.
Voilà. Il y en a quelques-uns qui sont gardiens du génome.
Gardiens du génome. Ils sont là pour surveiller l'ensemble, pour voir s'il n'y a pas d'embrouille.
Ils font du contrôle.
Ouais, ils font du contrôle. Ils scannent les 3 milliards de bases, ils se baladent. Ils sont là pour regarder s'il n'y a pas d'embrouille.
C'est la police.
C'est la police. Et si il y a un problème au niveau de l'ADN, s'il y a une base qui est mise à parier, si ça commence à, ils disent à la cellule, là, on est désolé. Tu ne peux pas continuer à te diviser, tu ne peux pas continuer à faire du tissu nouveau et tout. Il faut que tu répares. Donc on te donne 24 heures, 48 heures pour réparer les ennuis. Tu amènes tes gars, tu répares. Si tu ne peux pas réparer, soit tu pars en apoptose, c'est-à-dire que tu meurs, tu dégages, oui. Ou soit tu te mets en sénescence. Sénescence, c'est-à-dire que tu es dans un coin, tu ne peux plus répliquer.
Tu ne te reproduis plus.
Oui, tu la fermes.
C'est ça la sénescence pour une cellule, c'est de ne plus être capable de se répliquer.
Oui, c'est ça. Elle ne peut plus se répliquer, c'est-à-dire arriver à un certain taux de réplication. Par exemple, on sait, il y a un gars qui s'appelle les flics qui avait montré ça il y a longtemps, un fibroblaste se réplique 50 fois et puis après c'est fini. Il ne peut plus se répliquer, il arrive à un stade de sénescence. Là, ces gardiens du génome, ils disent, basta, on arrête. Soit tu meurs, si tu ne veux pas mourir, on peut comprendre qu'une cellule ne veuille pas mourir, elle veut continuer à assister au spectacle, elle se met dans un coin et elle ne fait plus rien. C'est ça la sénescence, ça c'est vraiment le vieillissement.
Elle est au placard.
Et cette sénescence, elle est très importante, parce que d'abord, elle permet d'éviter les cancers, et elle joue un rôle aussi dans la réparation des lésions tissulaires, dans ce qu'on appelle...
Vous voulez dire que les cellules sénescentes préviennent des cancers?
C'est pas qu'elles préviennent des cancers, c'est qu'à partir du moment où il y a des dégâts dans l'ADN, et qu'on part vers la sénescence, le système de la sénescence permet d'éviter de partir vers une cellule qui va continuer à faire de plus en plus
à
proliférer et puis à faire d'autres embrouilles avec l'ADN et ça peut, au bout de 10-15 mutations comme ça, on part vers une cellule pré-néoplastique et néoplastique. Alors, les gardiens du génome, il n'y en a pas tellement. Il y a cette P53, on a deux chromosomes de la mère et du père, donc on a deux gènes. Et puis, il y a un couple de trois gènes qui s'appelle P16, P14, sans vouloir être, et le rétinoblastome. Voilà, c'est ce groupe, cette famille-là. Et on sait que dans les cancers humains, 100% des cancers ont muté ces gènes-là. C'est-à-dire que ces gènes-là sont inactivés. C'est-à-dire qu'à un moment, la cellule, quand elle continue à jouer, alors elle fait une translocation, ou vous avez fumé, vous avez eu une agression de l'ADN, à un moment des mutations, il faut faire sauter la P53.
Donc, si je comprends bien, ces gènes P53 et les deux autres que vous avez cités sont responsables du gardiennage du génome, mais c'est quand ils ne font plus ce travail que ça ne va plus.
Si vous êtes le cancer et vous voulez arriver à la cellule cancéreuse, vous voulez réorganiser l'ADN, vous voulez faire des tas de choses pour arriver à cette prolifération non contrôlée. Il y a un moment où il faut faire sauter ces gardiens du génome. C'est pour ça que, par exemple, 50% des cancers chez l'homme ont inactivé ce gène P53 sur les deux allèles. 100% des cancers chez l'homme ont inactivé soit la P53, soit la voie. Donc ces gènes, ces flics-là, pour cambrioler la banque, il faut un moment les neutraliser. Sinon, on ne pouvait pas rentrer. On pouvait préparer tout, la voiture, les copains, les armes et tout. Un moment pour rentrer, il faut neutraliser les trois flics qui sont devant. ce qui est amusant, c'est qu'il y a des gosses, malheureusement pour eux, qui naissent avec un seul gène P53.
Oh, c'est pas amusant.
Oui. Non, c'est pas amusant.
Ils ont des cancers précoces.
Du coup. Ils s'appellent les lyphroménies. Ils ont des cancers précoces. Ils font des multicancers à 25-30 ans. Et nous, les humains normaux, entre guillemets, on a deux P53 du chromosome du père et de la mère. Donc pour les inactiver, il faut taper sur les deux. Et nous, on fait des cancers à 65 ans, 70 ans. Dans les pays développés, c'est la moyenne d'âge du cancer. Mon raisonnement, qui était un raisonnement qu'aurait fait un enfant de 8 ans si on lui avait raconté, c'est que si on a un gène P53, on fait des cancers à 25-30 ans. Si on en a deux, on les fait à 65. Pourquoi on n'en a pas trois ou quatre pour les faire à 125 ans? Pourquoi l'évolution nous en a pas mis plus? Alors on pouvait répondre, oui, elle a dû essayer, mais comme il y avait d'autres pépins, comme il y avait d'autres ennuis, elle a dû réduire sa voilure et rester sur deux. C'est ça le bricolage de l'évolution, comme disait toujours Jacob. Elle a dû essayer, elle a fait des bonhommes avec trois ou quatre, mais comme ils sont partis en vrille, on est revenu sur deux en disant, on laisse tomber cette manip, elle est marrante, mais elle ne marche pas. Mais il fallait poser la question. Alors, pour le moment, on a, même à Necker, on n'a pas le droit de fabriquer des humains en leur rajoutant des gènes, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. On est très coincé en recherche médicale. Donc, mais par contre, on peut fabriquer des souris. Donc, comme c'est pas la recherche qu'on fait dans le labo, ça du tout. J'étais à Madrid pour faire une conf sur le système immunitaire, sur mon magasin, et il y avait là un jeune cancérologue très talentueux à qui je vais raconter cette histoire que je racontais depuis quelque temps, étant un peu gâteux, et il m'a dit mais moi je le fais tout de suite.
Il est souris.
Je construis la souris avec 3 P53. Il a été très fort parce qu'il a construit une souris dans laquelle il a mis une partie du chromosome, 100 kilobases, pour avoir la régulation normale de la P53.
C'est le jargon, c'est-à-dire construire une souris?
Oui, on construit une souris. Oui.
Comme une voiture.
Oui, c'est ça, on dit tout le temps construit. On construit des souris.
Vous construisez des
ça
souris.
Ça fait un peu rire les gens quand on en parle. On construit. Alors, il a construit une souris avec 3 P53. Et on l'a publié, parce qu'il m'a fait signer, il était, comme je lui avais proposé l'idée, et cette souris résistait au cancer naturel et au cancer induit. Elle décalait énormément l'apparition du cancer. Après, il a fait une souris avec trois, vous savez ce fameux locus P14, P16, il en a rajouté un, à nouveau il l'a publié, et puis il a marié ces deux souris, 3 P53, 3 P14, et là il a fait une double, ce qu'on appelle transgénique, celle-là il l'a publiée dans Nature, elle résistait totalement au cancer spontané. Après deux ans, 45% ou 50% des, même un peu plus, je crois, des souris meurent de cancer. Elles font des lymphomes, cancer de cellules sanguines. Celle-là, je crois que c'est 5% qui faisait un cancer. Et les cancers induits par des produits chimiques et tout, elles résistaient très bien. Et en plus, elles vivaient un peu plus longtemps. Elles vivaient 17% à 20% de longévité. Alors là, il a eu plein d'articles et tout. Ça montrait que de fait, en tout cas pour des souris, on n'est pas des souris, ça montrait que de fait, l'évolution n'était pas concernée par le cancer, sinon elle nous aurait. Elle n'avait pas essayé dans son atelier de bricolage, elle n'avait probablement pas essayé.
En tout cas, pour les souris, si elle avait essayé, elle aurait réussi.
Exactement. Alors on peut répondre que l'évolution ne s'est pas tellement intéressée aux souris, il y avait trop de boulot et qu'ils se sont intéressés aux bons hommes.
Et c'est un argument, ça?
Je ne sais pas. Si on rigole, c'est qu'on peut les imaginer dans le labo en train de dire écoutez, les souris, c'est sympa, mais. On a d'autres commandes.
Qu'il y en ait trop.
On a des commandes plus sérieuses. Alors, ce qui est marrant, et c'est la raison pour laquelle, parce que ça a été fait en 2002, donc vous imaginez, la première publication de l'espagnol Manuel Serrano, c'est en 2002. Et après, il a publié tous les 2-3 ans. Il a même publié encore l'année dernière sur ses souris. Mais ce qui est marrant, et ce qui a suscité mon nouvel enthousiasme là-dessus, c'est que il y a 3 exemples qui sont très amusants. D'abord, il y a un papier qui est sorti il y a quelques mois, qui montrait que les éléphants qui vivent 65 à 85 ans font pas de cancer pratiquement. Le taux de cancer est au-dessous de 5%. Et ils ont séquencé le génome des éléphants et ils ont vu qu'ils avaient 20 P53 au lieu de 2. Alors, c'est des P53 qui sont ce qu'on appelle des rétrogènes, c'est-à-dire que c'est des gènes exprimés qui sont re-rentrés dans le génome. On ne sait pas s'ils sont tous fonctionnels, mais ils ont testé, ils ont déjà vu qu'il y en avait au moins un qui était fonctionnel. Donc ils ont déjà plus que 2 P53, les éléphants. Donc l'évolution pour les éléphants...
A mis le paquet.
Alors, ensuite, il y avait d'autres histoires. Par exemple, il y a un rat qui s'appelle le rat taupe, qui n'est pas un très joli garçon, si vous le regardez. Il vit 30 ans sous terre. Au lieu de vivre 2-3 ans comme tous les rongeurs. Et il ne fait jamais de cancer. On a séquencé le génome du râteau. Lui, c'est P14-P16. Au lieu d'avoir 3 gènes, il en a 4. Il en a un quatrième qui est exprimé. Donc on a l'impression que pour certaines espèces, il y a eu amplification de ces gènes qui les protègent contre le cancer.
Alors donc, j'imagine que ça a donné des idées à beaucoup de gens. Ça a pu faire croire à l'immortalité dont on parle beaucoup aujourd'hui.
Non. Ce qui est compliqué, c'est que quand j'ai proposé cette manip et que j'ai copublié avec ces gens, j'ai des copains à Necker, des profs à Necker, qui m'ont dit « Mais c'est scandaleux, Jean-Claude, parce que tu es en train d'ouvrir la porte à la modification du génome. » Comme je disais, « The modest project to redesign humanity », le projet modeste de redessiner l'humanité. Parce que si vous touchez le génome, vous tombez sur un truc... Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que ce sujet est devenu incroyablement d'actualité, puisqu'il y a ces fameuses manips CRISPR-Cas, ce fameux système bactérien qui a été mis en place. Il y a une chercheuse française, Charpentier, qui fait partie des deux dames qui ont publié ça, et qui vont avoir beaucoup de médailles, qui en ont déjà, mais qui vont avoir encore beaucoup de médailles en chocolat pour ça, parce que c'est une grande découverte. Ce système bactérien permet d'insérer et de modifier avec une efficacité incroyable, n'importe quel gène du génome dans une cellule humaine. Donc on peut, aujourd'hui, si vous faites une FIV, entre un spermatozoïde et un ovocyte, comme beaucoup de couples le font quand ils se reproduisent un peu tard, au moment de la FIV, au moment de l'œuf fécondé, vous pouvez modifier un gène, le muter ou le réparer. Et d'ailleurs, il y a eu une conférence à Washington il y a 2-3 semaines où il y avait tous les grands biologistes moléculaires pour poser la question, est-ce qu'on a le droit d'aller là? Est-ce qu'on se rend compte où est-ce qu'on va? Et évidemment, ils ont voulu poser les limites tout de suite. On ne peut pas améliorer l'espèce humaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous... Parce que je suis allé regarder un peu ce qu'ils racontaient et ce qui sortait de ces réunions, c'est que les gens disent, oui, on ne peut pas améliorer l'espèce humaine. On ne va pas faire un mec qui court plus vite. On ne va pas faire un mec qui a des gros bras. Mais on peut modifier, on peut réparer un gène qui serait muté, comme dans la mucoviscidose, dans la maladie de Huntington. Donc si on sait qu'il y a des risques génétiques très forts dans une famille, on peut, à partir de ça, réparer un gène. On peut donc même modifier un gène pour se protéger d'une maladie. Par exemple, pour le sida, on sait qu'il y a un gène de récepteur. S'il est muté, vous ne pouvez pas être infecté par la bactérie. Et il semble, mais enfin, on n'a pas encore assez de données, que ça ne soit pas tellement délétère pour un homme d'avoir une mutation de CCR5 de ce gène. Donc, je me pose la question, en étant prudent, si un jour on a montré de façon très sérieuse et robuste qu'en rajoutant un gène ou deux dans une région qui soit neutre, on peut dire à une femme, cet enfant ne fera probablement pas de cancer ou pas d'Alzheimer. Bon, ça, c'est une autre question, les maladies cérébrales, on va en parler, c'est plus compliqué. Il ne fera pas de cancer parce qu'on rajoute le gène et il n'y aura aucun effet négatif. Je ne suis pas sûr que les gens diront pas oui, alors que ça va modifier probablement le génome de l'humanité. Mais je ne suis pas sûr qu'une fois que les manips seront faites et qu'elles seront bien faites, on ne pourra pas, de façon prudente... Alors évidemment, ça ouvrira la porte à des tas de choses délirantes. Mais bon...
Que vous le dites vous-même, Jean-Claude Weil, les techniques de réparation, en fait, sont autorisées.
Exactement.
Et elles sont les mêmes que les techniques d'augmentation des performances. Et donc, si on montre que ça marche bien pour la réparation, la tentation d'aller vers l'augmentation des performances sera tellement puissante.
C'est très compliqué. On pourra... Par exemple, c'était une histoire très marrante, le seul malade qui a guéri du sida. Il y a eu un malade qui a guéri totalement du sida. C'est une jeune femme, je crois, à qui on a fait une greffe de moelle osseuse. Alors, on l'a irradié, on a enlevé tout son système immunitaire, on lui a greffé des cellules souches pour qu'elle fasse un nouveau système immunitaire. En se disant, comme ce système immunitaire-là est plein de virus, les cellules sont pleines de virus du sida, on s'en débarrasse. Et on s'est aperçu qu'elle ne se réinfectait pas. Mais le donneur, chose très marrante, le donneur de cette moelle osseuse, il faut un donneur compatible, il avait une mutation de CCR5, ce fameux récepteur. Ce qui fait que lui, on ne pouvait pas l'infecter. Donc cette fille s'est retrouvée avec tout un système immunitaire, avec CCR5, non infectable. Elle ne pouvait plus être infectée par le virus. On peut se poser la question si des modifications de ce type qui préviennent une maladie et qui n'ont pas d'effet délétère, est-ce qu'elles ne seront pas autorisées? Alors il y aura des tentations, forcément, pour faire des choses qui, aujourd'hui, sont interdites. Mais c'est pas à vous que je vais
dire. J'imagine que les comités d'éthique sont sur l'affaire.
Ah oui, c'est un moment très important, puisque maintenant il y a cette technique incroyable. Donc on peut quand même imaginer que ces choses vont... Enfin, ça traverse déjà l'esprit.
Mais Est-ce que c'est facile de passer de la souris à l'homme?
Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des surprises? C'est pour ça que ces manips des grands animaux sont très importantes. Parce qu'un animal qui vit 85 ans, on a quand même une histoire qu'on n'a pas avec une souris qui vit 2 ans. Avant de...
Nous, les humains, on sera entre la souris et l'éléphant?
Non, parce que la moyenne d'âge maintenant dans les pays développés, c'est plutôt 65-70 ans. On n'est pas loin de l'éléphant. Donc si un éléphant se... Alors évidemment, on n'a pas la même vie, la même cuirasse et tout. Mais là, on rentre dans une discussion. Ce qui est compliqué, c'est que on parlait de l'évolution. L'évolution ne s'est pas occupée de nous après la reproduction. Mais le système immunitaire, par exemple... sur lequel on fait carrière et tout, on peut avoir des médailles, on finit même
à l'académie.
À l'académie de billard, il y a des tas de choses qui peuvent vous arriver avec ça. Mais c'est pas une telle affaire, c'est un système très imparfait. Vous mettez un bonhomme dans la nature, avec son système immunitaire, il meurt à 35-40 ans. Il peut pas faire face aux infections. Le système des infections pathogènes, des virus, des bactéries, des fongies, dépasse largement les possibilités du système.
Alors, Pour vivre longtemps, il faut un système immunitaire comme le nôtre, plus des médicaments.
S'il n'y avait pas ce cerveau, dont on ne sait pas pourquoi il a pris ses proportions, personne ne sait pourquoi ce cerveau fait 1,4 kg. Alors ça, personne ne sait au niveau de l'évolution pourquoi on a multiplié par 3 cette taille. Et on s'est arrêté parce que le bassin des femmes ne pouvait pas délivrer plus. Pourquoi ce cerveau a 100 milliards de neurones et 10 000 connexions par neurone? On n'en sait rien. Mais s'il n'y avait pas le cerveau qui faisait la vaccination, la chirurgie aseptique, les antibiotiques, la chasse d'eau, des grandes découvertes de l'humanité...
Travail d'ingénieur.
Oui. Je veux dire, vous voyez Mozart qui est mort d'une infection au streptocoque. Je veux dire, ce pauvre Descartes qui a pris froid en allant voir... sa copine en Suède, à 5 heures du matin.
Je veux dire, ça vous fait rire.
Ça me fait rire, je vais vous dire pourquoi. Je veux dire, parce que Descartes, j'ai une telle admiration pour ce type qui a toujours refusé tous les honneurs et qui a dit qu'il ne voulait pas être enquiquiné. Il est même allé vivre en Hollande pour pas qu'on l'enquiquine. Il avait la chance d'avoir une petite rente personnelle. Il voulait faire partie d'aucune académie, de rien. Et il s'est quand même fait piéger par son côté people, ça existait déjà en 1500. C'est-à-dire que la reine Christine de Suède lui a écrit en disant « Vous êtes un tel génie, j'ai besoin de vous parler, vous allez m'apprendre des tas de choses. » Seulement, elle se levait à 4 heures du matin et elle le recevait à 5 heures du matin dans un froid glacial. Il en est mort. Comme quoi, les plus grands cerveaux ont leur faiblesse.
Ou leur tentation.
Oui.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
J'ai vu dans une de vos conférences que vous parlez de ce film Blade Runner.
Ouais.
En quoi vous inspire-t-il?
Alors dans ce truc dont vous parlez à l'Université de tous les savoirs, j'avais montré en introduction, c'est Yves Michaud qui organise ce philosophe qui organise ces conférences, et je lui avais demandé est-ce que je peux montrer un film. Il m'avait dit oui. J'avais montré 5 minutes ce film qui est très amusant parce qu'on voit, ce film est génial de Ridley Scott, parce que ça date quand même maintenant. On voit le mutant qui a été fait par le grand professeur, qui monte dans un ascenseur et qui va voir le savant qui l'a fabriqué. Alors on voit ce grand blond magnifique et le petit savant à lunettes, et le savant lui dit « Mais pourquoi vous venez me voir, vous n'êtes pas content ?» Le type dit « Je suis très content. » Et l'autre lui dit « Mais... »
« Tout est parfait. »
« Tout est parfait, les performances sont extraordinaires, tout ce que je le fais mieux que tout le monde. » L'autre lui dit « Mais alors pourquoi vous venez me voir ?» Et l'autre lui dit « Mais je suis très mécontent. » Il dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Parce que je vais mourir. » Et le gars lui dit, mais ça, fallait que je choisisse. Moi, je pouvais pas faire les performances et la longévité. J'ai choisi les performances. Et j'ai montré ça parce que c'est ça l'évolution. On a sélectionné pour les performances et pas pour la longévité.
Et ça fait écho au mythe de Titon. Un vieux mythe de l'Antiquité, Titon, alors je rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent plus, c'était le frère de Priam, le fils du roi de Troie, donc le fils du roi de Troie aussi. Il était très beau et il était aimé d'une déesse qui s'appelait Eos et qui, pour le garder longtemps, a demandé à Zeus qu'il lui accorde l'immortalité. Et Zeus a accepté, sauf qu'elle avait oublié de préciser que ce qu'elle souhaitait, c'était la jeunesse sans fin. Et du coup, Titon est devenu vieux comme tout le monde. Et il a eu droit à une vieillesse éternelle. Il n'a pas cessé de se dessécher interminablement. Et bien sûr, Eos n'a pas attendu la fin des temps pour le quitter. Et donc, il faudrait choisir entre la performance et la durée.
Oui, et je pensais à ça quand vous m'avez invité. Je pensais à ça en me disant, finalement, la raison pour laquelle on accepte la mort, c'est parce que tout se casse un peu la gueule. On voit chez nos parents en vieillissant. On perd ses moyens. On perd ses moyens musculaires, cognitifs, ses moyens de séduction, j'en parle même pas. On perd énormément de moyens. Les femmes ne vous regardent plus, ou les hommes, si vous êtes une femme, ou plus de la même façon. On vous laisse votre place dans le métro, des choses terriblement humiliantes. Et c'est parce que tout se casse la gueule comme ça qu'on finit par accepter d'arrêter la manip, parce qu'elle devient de moins en moins marrante et de moins en moins intéressante. Le problème, c'est que parce qu'on va quand même arriver à faire des choses avec la thérapie génique, la thérapie cellulaire, grâce au manip génial de Yamanaka, où on peut prendre une cellule de la peau et en faire une cellule souche en mettant 4 gènes dedans, et vous pouvez reconstruire un organe. Donc avec ces manips de thérapie cellulaire, thérapie génique, modification du génome, pour faire un clin d'œil à la P53, on va arriver à prolonger les gens en assez bonne santé. Et je pense que plus on va prolonger les gens en bonne santé, moins ils vont vouloir mourir. Ils vont pas
donc
accepter.
Ça va être un cycle infernal.
Ils vont pas accepter de mourir parce que si vous êtes en pleine forme et que les minettes continuent à vous regarder avec un petit sourire avec dans les yeux, vous allez pas vouloir mourir. Vous allez trouver ça dégoûtant. Donc si on maintient, on peut imaginer si on peut remplacer les organes et tout comme on remplace les pièces d'une voiture. On maintient les gens et qui jusqu'à 100, 120 ans, ils sont en pleine forme. Ils vont trouver ça dégoûtant de mourir, soit par accident. Et
donc vous pourriez nous transformer en de véritables bateaux de Thésée. C'est
oui,
ça que vous êtes en train de dire.
Mais malheureusement, moi je pense que, d'abord il y a le cerveau qui est une énigme incroyable. Ça va être le siècle du cerveau, là. On ne comprend rien au cerveau. Qu'est-ce que c'est que le cerveau?
Stanislas Dehaene qu'on a reçu a dit le contraire.
Et il dit qu'on comprenait
donc
le cerveau.
On commence à comprendre des choses.
Oui d'accord, est-ce qu'on sait ce que c'est que l'inconscient? On sait ce que c'est que ce qui motive vos décisions, votre sensibilité, votre affect, votre mémoire, est-ce que quand on va remplacer les cellules, on rêve, on va remplacer les neurones qui dégénèrent d'un type, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une pompe, on va aspirer sa mémoire et on va lui remettre dans le cerveau pour qu'il sache où il habite et qu'il soit gentil avec sa femme. On n'en est pas là. Et en plus, il reste quand même un truc. Une fois que vous... Bon, le gros truc, c'est les maladies cardiovasculaires, la grosse mortalité dans les pays développés. Si vous réglez ça, les modes de vie, l'alimentation, les modes de vie, le sport, et puis le remplacement d'organes, on peut imaginer qu'on pourra remplacer un cœur, on essaye avec des cœurs, on pourra remplacer un poumon, bon, on parle sur les 20, 30 ou 40 ans, on peut imaginer ça. Mais il reste un truc sur lequel on n'a pas de prise, et ça c'est dans mon magasin, c'est les maladies infectieuses. Là, on sait, ça c'est vraiment l'imprévisible. Demain, le virus Zika, demain, Ebola, demain, un nouveau HIV mutant. Là, on ne sait pas ce qui va arriver. Et là, on est forcément totalement démunis. Les maladies infectieuses, avant de faire un vaccin, vous pouvez décimer la moitié de la planète. Donc, l'immortalité, malgré les vœux de Woody Allen, l'immortalité, ce n'est pas pour tout de suite. Et on va, je pense, prolonger les gens en meilleure santé. Mais ils vont être de plus en plus angoissés.
Et ça sera long, surtout vers la fin.
Oui, c'est ça. Ils vont être de plus angoissés parce qu'ils vont trouver ça impensable de mourir.
Ils auront eu plus de temps pour s'habituer à la vie.
De mourir. Et puis bon, alors évidemment, nous les, vous savez, il y a un philosophe peu fréquentable qui avait dit « la science ne pense pas ».
Monsieur Heidegger, on en a parlé à ce micro déjà.
Exactement, ouais. La science ne pense pas, donc nous, les chercheurs, on pense pas. On est là, on est des bricoleurs, on veut continuer. Écoutez, on peut pas s'arrêter. Il faudra forcément des gens avec un peu de recul, des philosophes ou des penseurs ou des théologiens qui réfléchissent.
Il y a aussi des scientifiques qui, à défaut de penser, promettent des choses. Ouais. Notamment l'immortalité, qu'est-ce que vous en pensez?
Là, je pense
que... Il y en a qui disent que des gens immortels sont déjà parmi nous.
Oui, mais là, je pense qu'on est envahi par des gens qui sont pas des chercheurs et qui ont... Je voudrais pas être trop agressif, mais qui ont des buts mercantiles et qui pensent surtout à faire.
Mais là, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Parce que s'il y avait des immortels parmi nous, comment est-ce qu'on saurait qu'ils sont immortels?
Oui,
il faut attendre longtemps pour en avoir la preuve.
Oui, il y a des gens qui disent que sont nés déjà aujourd'hui des gens qui vivront 1000 ans et tout. Je pense que c'est totalement déconnant. Je pense que ces gens ne sont pas directement dans les problématiques de la, quand on est dans la recherche. Quand on est dans la recherche à la paillasse, on est un peu plus modeste. Parce que 99% des choses qu'on fait ne marchent pas, et que les choses sont lentes, et que c'est compliqué. Comme je vous disais, entre une souris, comme vous disiez, et un homme, et de comprendre que, par exemple, on ajoute un gène chez une souris ou un éléphant, mais est-ce que ça va faire des dégâts chez l'homme? Il faut 10, 20 ans. Est-ce que... Alors, la seule manip qu'on avait faite, mais je pense à ça parce qu'on est entre nous.
Enfin, on est entre nous. On est quand même sur la culture.
Je me détends. C'est d'ailleurs un copain qui m'avait proposé ça, un copain médecin, chercheur, qui m'avait dit, mais si ton histoire P53 est vraie, tu devrais aller voir chez les gens de 90 ans qui n'ont pas de cancer.
Et moi, peut-être, s'ils en ont 3.
Et peut-être ils ont amplifié la P53. Et je suis allé à l'hôpital Broca, où il y avait des gens de 90 ans. On a pris le sang d'environ 40 personnes et on a regardé s'ils avaient amplifié la P53 ou la P1416. On n'a trouvé aucune amplification. Ça, c'est la manip qu'on avait faite, nous, dans le labo, pour voir si ça collait avec eux. Et on n'a trouvé aucune amplification.
Donc ça clôt un peu l'affaire.
Ça clôt pas l'affaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce type d'amplification... Chez les humains, il n'y a pas de sélection pour ce type d'amplification pour les prévenir du cancer.
Donc si ces personnes n'ont pas le cancer, ça vient d'autre chose que...
Exactement. Alors il y avait deux vieilles dames qui avaient 90 ans, qui elles exprimaient. Alors c'était pas les gènes qui étaient... Il n'y avait pas plus de gènes, mais le taux d'expression était beaucoup plus élevé pour P53.
Qu'est-ce que c'est que le taux d'expression d'un gène?
Vous avez 3 milliards de bases. C'est vos chromosomes, quoi. Sur chaque chromosome, il y a quelques centaines de millions de bases. À la fin, il y en a 3 milliards. Sur ces 3 milliards de bases, il y en a un certain nombre qui codent qui sont des gènes qui codent pour des protéines. Il y a environ 25 000 gènes. Donc sur cet immense écheveau de bases, il y a 25 000 régions qui codent pour des gènes. Alors coder pour un gène, ça veut dire que l'ADN est transcrit, il exprime quelque chose, il exprime une molécule qu'on appelle l'ARN, qui est traduite en protéine. La protéine, c'est ça qui fait le boulot. Donc l'expression de l'ARN est variable suivant les gènes et les individus. Chez ces deux dames, elles exprimaient beaucoup plus de P53 et de P14-P16, ce qui voudrait dire qu'elles ont plus de protéines et que ça pouvait les aider. Mais il y en avait deux sur 40, il n'y avait pas de quoi monter une histoire. Donc. Mais ça ne clôt pas l'affaire de savoir si en ajoutant ces gènes, on protégerait les gens sans effet délétère. Ça reste... Qu'on les protège, je le pense vraiment. Est-ce qu'il y aurait des effets délétères? Ça reste à démontrer.
Jean-Claude Vaille, vous savez que Blaise Pascal disait « il vaut mieux ajouter de la vie aux années que des années à la vie ». Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Et pourtant, j'ai lu que des chercheurs recommandent le jeûne pour augmenter son espérance de vie. Mmh. Le jeûne avec un accent circonflexe, hein, je précise, puisqu'il est, paraît-il, menacé. Est-ce que vous êtes courant? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, parce que ça,
mange
c'est...
trop
les... c'est... Non, mais c'est des manips sur la restriction calorique. Chez la souris, chez le ver de terre, chez plein d'espèces, ils ont eu qu'en réduisant énormément l'apport de calories, ils augmentaient la longévité presque de 25%, jusqu'à un quart chez les souris. Donc, la question se posait...
Elle vise comment, ces souris? Elles bougent
Oui, alors évidemment...
C'est un peu ralenti, non?
Elles ne vont pas au sport d'hiver, elles regardent pas, elles n'écoutent pas France Culture, elles n'ont pas tous ces problèmes, mais elles vivent dans leur cage, donc c'est des vies assez confinées. Mais alors, j'ai lu hier, c'est marrant, qu'il y avait des gars qui avaient fait une manip chez l'homme, où ils ont suivi, alors pendant presque 15 ans, des gens dont ils ont réduit énormément la consommation. Alors ces gens, la moyenne de poids de ces gens, c'est 58 kilos, c'est pas beaucoup, hein. Donc ils ont réduit énormément l'apport calorique chez ces gens, parce qu'évidemment, chez les Américains et en Californie, ça provoque des rêves incroyables. Je crois qu'il y a un type qui s'est mis au jeûne absolu et qui en est mort. Enfin, il y a eu plein d'histoires comme ça. Mais dans ce groupe d'individus, ils disaient, alors ils ne pouvaient pas dire s'ils vivaient plus vieux, parce que pour le moment, ils ne sont pas encore arrivés là, mais ils disaient qu'il y a certains marqueurs, comme la quantité de cortisol dans le sang, qui est un peu plus élevée, qu'il y a des marqueurs qui ont l'air de montrer l'autophagie, par exemple. L'autophagie, c'est un truc que les cellules à un moment donné, se mettent à manger tout ce qu'elles ont à l'intérieur pour refaire des nouvelles molécules.
À l'intérieur d'elles-mêmes.
À l'intérieur d'elles-mêmes. Et il semble que l'autophagie, ça soit un bon truc. C'est un bon truc pour la survie et pour la longévité. Parce que, pour en revenir à ce qu'on disait au début, comme les protéines se cassent la figure, comme tout ça a un peu moins d'allure, c'est vrai que si vous pouvez tout nettoyer, tout avaler et refaire du neuf, et repartir à zéro, c'est une bonne chose. Donc la cellule sait faire ça. Elles savent faire l'autophagie. Il semblait que les gènes de l'autophagie étaient un peu augmentés. Bon, là encore, on n'est pas des souris. Est-ce que la restriction calorique, c'est certain qu'il vaut mieux ne pas être obèse, mais est-ce que la restriction calorique très sévère, hein, parce que
donc elle a sûrement un effet sur l'activité, sur la conscience, le dynamisme, j'imagine.
Ah oui, je peux imaginer. Et la restriction calorique sévère comme ça, c'est pas rien, parce que un individu normal qui fait 70, 75 kilos, qui en fait 55 ou 58, c'est pas rien, hein. Ça demande un effort incroyable, hein. Je ne sais pas si... Alors, ce que les gens essayent de trouver, c'est des molécules qui miment ça, évidemment. Des drogues ou des médicaments qui peuvent mimer l'effet de ça, pour que le type puisse continuer à s'alimenter correctement.
Et alors là, s'en aperçoit pas.
Ouais. Alors là, il y a une énorme industrie, évidemment. Sur le vieillissement, la longévité, il y a une industrie colossale. Parce qu'il y a
ils ont vendu beaucoup de rêves, non?
Oui, beaucoup de rêves et beaucoup de conneries.
L'espérance de vie en France a baissé.
Ah non, l'espérance... Oui, alors là, c'était les derniers chiffres. Mais enfin, on est sur des trucs minimums. Ça va quand même en augmentant régulièrement. Le problème de tout ça, c'est qu'il y a toujours énormément d'argent qui sont là-dedans. Par exemple, les Américains mangent beaucoup d'antioxydants. Ils ont tous les 3 bouteilles d'antioxydants. C'est des milliards de dollars qui sont dépensés. Tous les matins, ils avalent leurs 4 antioxydants. Récemment, il y a des études qui ont montré que les antioxydants, c'est pas terrible. Et notamment, si vous avez un début de cancer, ça peut l'aggraver terriblement d'avoir des antioxydants. Donc c'est en train de changer. Donc c'est vrai qu'il y a des modes qui partent comme ça, avec énormément d'argent derrière et tout. Et puis après, on recule un peu et on réfléchit. Donc sur la restriction calorique, je crois qu'on est sur la recherche des mimétiques. Parce qu'on ne peut pas imposer aux gens quand même des vies, comme vous dites, avec...
Cassette.
Oui, avec probablement des fontes musculaires ou des... Il y a plein d'histoires marrantes, vous savez, qui sont faites là-dessus. Il y a des gens qui ont publié récemment. Vous me dites, hein, si vous...
On sort de table, mais allez-y.
On n'est pas là. Vous me le dites. Il y a des types qui ont... Parce que j'ai une vraie logorée quand vous me lancez là-dessus.
Mais moi, ça me passionne et je pense que ça passionne tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut manger ce soir?
Ils ont croisé la circulation sanguine de souris jeunes et vieilles. Ils ont fait, les gens appellent ça parabiose. Le sang circule dans les deux sens.
Ah, c'est un article de Nature du mois de février, ça.
Ils ont fait
j'ai vu ça.
Ils ont fait un truc. Or, les souris vieilles, soi-disant, allaient beaucoup mieux, même sur le plan musculaire, à tous les niveaux.
Par contre,
elles rajeunissaient.
Les jeunes ont vieilli.
Non, les jeunes, j'ai pas l'impression que les jeunes vieillissaient. Il y a eu un effet incroyable sur les souris vieilles. Donc, évidemment, à nouveau, les gens sont partis comme des fous. Ils ont même isolé une molécule qui s'appelle GDF11, qui semblait être responsable de cet effet sur les souris vieilles. Il y a des essais, tout de suite, des essais cliniques qui sont partis en Californie, notamment sur un groupe de malades qui ont l'Alzheimer. Mais il semble, quand on lit bien les trucs, qu'il y a quand même des effets, par exemple des effets extrêmement délétères sur la masse musculaire. Il semble que cette molécule pourrait induire des fontes musculaires et tout. Donc à nouveau, une manip sur la souris qui fait rêver les gens, et derrière...
Mais est-ce qu'on n'a pas toujours une sorte de conception mécanique du corps humain, avec l'idée que si on change telle pièce, ça va introduire telle conséquence, alors qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué, il y a des causalités multiples, et on raisonne toujours comme si...
C'est très marrant, quelquefois, c'est ça qui est marrant dans la recherche aussi. Quelquefois, c'est simple. Vous enlevez un gène, vous enlevez une protéine, et vous avez un effet massif du rôle de cette protéine. Et quelquefois, vous avez les effets de redondance, c'est-à-dire qu'il y a toujours d'autres gènes pour faire le boulot. Donc, vous n'avez pas l'effet. C'est très compliqué. On n'a jamais... Il y a quelquefois des effets, ce qu'on appelle miraculeux pour les chercheurs, c'est... Vous enlevez un gène et vous avez l'effet massif, chez l'homme et chez la souris.
Jean-Claude Weitz, j'ai une question un peu indiscrète à vous poser. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes un jeune chercheur en fin de post-doc.
Je suis en début de carrière.
Alors qu'en fait, vous êtes professeur émérite. Qu'est-ce que vous avez pris comme substance pour avoir ce dynamisme et cet appétit de comprendre encore?
Comme vous dites, je suis en début de carrière. C'est-à-dire que... C'est quand même un métier très rigolo, ce métier de chercheur. C'est que vous avez une stimulation intellectuelle géniale dans la mesure où... Bon, c'est vrai que c'est un peu too much, mais sur Internet tous les jours, ces dizaines de papiers qui sortent, avec le monde entier ouvert, tout ce qui se passe dans le monde, vous l'avez.
Est-ce qu'on arrive à assimiler cette quantité?
Non.
En physique, c'est impossible.
Non,
je pense qu'en biologie, c'est aussi
beaucoup
impossible.
Beaucoup trop d'informations. Vous finissez par n'être que sur le millimètre carré qui vous intéresse. Tout le reste, ça rentre. C'est de la musique. C'est une musique géniale, mais ça rentre et ça sort. Vous pouvez pas le stocké. Et ensuite, quand vous êtes dans un groupe de recherche, c'est l'archange que j'ai, puisque Claude Agnès Reynaud est plus jeune que moi et qu'elle dirige, elle est directeur de l'équipe et que moi je suis juste le co-directeur scientifique, c'est qu'il y a cet apport des jeunes qui viennent tout le temps et qui...
j'ai vu une photo de votre équipe, il y a de très jeunes femmes.
C'est ça le génie de ce boulot, c'est que vous avez des jeunes internes, des jeunes gars qui sortent des grandes écoles, qui viennent vous donner toute leur énergie et leurs rêves en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on part et tout, et qui vous insufflent un goût de la vie incroyable. Et on a du mal à s'imaginer sans ça. C'est une drogue incroyable, on a du mal, c'est une addiction. L'addiction au savoir, l'addiction à la connaissance, vous êtes là-dedans.
Est-ce qu'il y a un gène pour ça?
Je sais pas, mais moi j'ai dû l'amplifier. C'est une addiction. Mais c'est vrai qu'on s'imagine mal être chez soi en train de lire Le Monde et se promener dans les parcs. Hein.
Et les vacances, ça se passe comment pour vous?
Ah bah si, j'adore les vacances parce que ça permet de décompenser un peu, puis d'avoir peut-être des idées, pas avoir trop la tête dans le guidon, parce qu'on a la tête dans le guidon dans les manips et tout. Donc
en ce moment, votre équipe, elle travaille sur... Quelle est la question que vous vous posez, par exemple, si on allait dans votre laboratoire?
La question qu'on se pose aujourd'hui, mais il y a pas mal de questions, hein, sur... On a des modèles de souris, on a construit des souris, vous aimez bien...
Construit des souris.
On a construit des souris où quand les cellules...
Ça ne plaît pas trop, hein, à vrai dire.
Oui, mais enfin bon, on est...
Elles sont toutes génétiquement modifiées, j'imagine.
C'est ça, ouais. On a construit des souris, par exemple, où quand les cellules... On travaille sur les cellules B, celles qui font des anticorps, nous. On a construit une souris très amusante qu'on a envoyée dans le monde entier. Parce qu'elle...
C'est un proto ?
Oui, où quand les cellules deviennent des cellules à mémoire, c'est-à-dire on les immunise, on les vaccine, au moment où les cellules concernées deviennent des cellules à mémoire, elles deviennent vertes. Il y a un gène qui devient vert.
Vert.
Qui exprime de la fluorescence verte. Et elle reste verte pendant les 2 ans. Donc au moment où on vaccine la souris, les cellules impliquées dans cette réponse deviennent fluorescentes vertes. Et elles restent vertes pendant toute la... Donc on peut les suivre, même s'il y en a 100. Et on peut voir ce qu'elles deviennent, et si on revaccine, qu'est-ce qu'elles vont faire et tout. Donc on est passionné par ce système. Et on a envoyé ces souris à plein de copains, à plein de collègues qui avaient envie de s'amuser avec. Et bon, ça c'est genre de...
Le gang des souris vertes, on peut
dire.
Oui,
le gang des souris vertes. Il y a cette histoire de mémoire qui me passionne, qui nous passionne, de savoir si on va... Est-ce qu'on va trouver une signature ou pas? On n'en sait rien. Vous savez, un projet de recherche, il y a une chance sur 1000 qui marche, c'est déjà pas mal.
Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ses monsieur. Ce monsieur me dit, trempe-la dans l'huile, trempe-la dans l'eau, vous aurez un escargot tout chaud. Vous aurez un escargot tout chaud. Vous aurez un escargot tout chaud. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans ma culotte, elle y fait trois petites crottes. Vous aurez un escargot tout chaud. Vous aurez un escargot tout chaud. Vous aurez un escargot tout chaud.
Il y a une mémoire, quand on vieillit, on dit qu'on perd la mémoire. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer vieillir en oubliant complètement, par exemple, sa jeunesse? C'est-à-dire qu'on aurait une mémoire sur une période de temps beaucoup plus courte que l'espérance de vie.
Ça, c'est les problèmes des neurobiologistes. Ça, je peux pas vous répondre. C'est tellement compliqué pour moi, la neurobiologie. C'est 100 milliards de neurones. Comment on va piger? Comment ça fonctionne? Et à la seconde où vous les analysez, ils sont déjà en train de se... Ce que je sais, c'est que par exemple dans l'Alzheimer, à 80 ans aujourd'hui, c'est bien de parler du vieillissement, mais à 80 ans, 15% des gens ont des plaques d'Alzheimer. Et le premier signe de l'Alzheimer, et je pense qu'à 90 ans, c'est beaucoup plus, c'est quand on a disséqué les cerveaux des gens âgés, ils avaient presque tous des plaques d'Alzheimer. Donc si on n'arrive pas à résoudre ça, c'est bien, on va faire des gens qui vivent 120 ans, mais ils seront dans la rue, ils ne sauront pas où ils habitent, ils ne sauront pas rentrer chez eux, et ils seront comme des zombies. Donc il y a des progrès à faire. L'Alzheimer, c'est la mémoire, ça touche l'hippocampe d'abord, et on commence par perdre ses repères, et plus savoir où on habite et qui on est, à reconnaître les siens et tout. Donc,
Cioran disait « être moderne, c'est bricoler dans l'incurable ». Est-ce que vous avez peur de ce qui se prépare, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt confiant ?
J'ai pas peur, parce que je pense que les humains sont capables de faire la Joconde, et ils sont capables de mettre des barbelés autour d'un endroit et de gazer des gens. Dans le cerveau humain, il y a toutes ces stratégies, dans ces 100 milliards de neurones et ces 10 000 connexions. Il y a toutes ces stratégies. Vous êtes physicien, on peut vivre dans la lumière de ce studio par l'énergie nucléaire, mais on peut aussi balancer une bombe sur des gens. On sera toujours dans cette terrible ambiguïté de ces capacités illimitées du cerveau.
Mais ça peut cesser, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une destruction.
Il peut y avoir, ça peut basculer.
Un effondrement, un collapse.
Oui, mais on a l'impression, comme on dit dans les, comme c'était dans les textes, dans l'Ancien Testament, pour parler de choses vraiment sérieuses, on a l'impression qu'il y aura toujours des justes qui vont permettre de sauver l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité est constamment dans cette espèce d'évolution négative et positive. Et puis, il faut toujours qu'il y ait quelques personnes qui soient capables de rétablir la sagesse.
Qu'il y ait des gardiens de l'humanité comme il y a des gardiens du génome.
Exactement. Il suffit de quelques justes pour finalement que la chose tienne. Il n'y en a pas beaucoup, mais quelquefois, il en faut quelques-uns.
Eh bien, nous allons terminer sur cette note d'espoir. Jean-Claude Weil, merci d'être passé chez nous. C'était passionnant. Pour les auditeurs, je livre
à
leur méditation cette phrase de Marc Aurèle. Il te reste peu de temps, vis comme sur une montagne, ici ou là, c'est sans importance. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Bruno Gagnère-Fontanille et à la réalisation François Connac.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aime, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi? Était-ce lui? Était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis.
Tout de suite, vous retrouvez Projection Privée par Michel Simon.